On va parler tout de suite du salon de l'auto. C'est toujours un événement qui est intéressant. Puis disons, il y a quelques données que j'aimerais soulever ce matin avec notre chroniqueur automobile, Benoît Charrette. Bonjour, Benoît.
Salut, Paul.
Bon, d'abord, quand on parle du salon de Montréal, tu es allé au salon de Détroit. Fais-moi un petit comparatif entre les deux.
Honnêtement, il y a beaucoup plus de matériel au Salon de l'Auto de Montréal cette année qu'il y en a à Détroit.
Ah oui?
Détroit, depuis quelques années, est victime de la popularité du Consumer Electronics Show à Las Vegas. Parce que ce salon-là était, il y a peut-être 7-8 ans, un salon électronique, c'est-à-dire les dernières télévisions 4K, les caméras, il n'y avait pas d'automobile. Sauf qu'un jour, il y a un constructeur qui est arrivé, puis je suis pas sûr que je me trompe, mais je pense que c'est FCA Chrysler qui avait présenté le système Uconnect, qui est une innovation technologique dans une voiture. Et là, on a commencé à voir la multiplication des constructeurs automobiles se présenter au CES, tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a une aile complète du salon qui est réservée à l'automobile, et on va présenter les primeurs là-bas. Sauf que le problème, le CES se tient une semaine avant le salon de Détroit. Donc, tout ce qu'on retrouve là-bas n'est pas à Détroit. Puis, il y a des constructeurs qui ont décidé d'abandonner la ville. Il faut comprendre deux choses. C'est qu'en 2009, il y a eu la crise financière aux États-Unis qui a donné un très dur coup à l'automobile. GM et Chrysler se sont mis sous la protection de la loi des faillites. Et ensuite de ça, la ville de Détroit a fait faillite. Le salon est devenu l'ombre de lui-même et on ne s'est jamais remis de ça. Avec le CES qui est embarqué par-dessus tout ça. Écoute, Paul, il y avait une douzaine de constructeurs à Détroit cette semaine. Le plancher principal était vide. Il n'y avait pas d'Allemands, à part Volkswagen, pas de voitures de prestige, pas de Mitsubishi, Mazda, Volvo. Il manquait plein de monde. Donc, même si le Salon de Montréal n'est pas aussi gros en termes d'envergure, en termes de qualité de véhicules, de nombre de véhicules, de constructeurs, tout le monde est là. Alors, au moins, la personne qui va visiter le salon va voir à peu près tout ce que le parc automobile a à offrir.
OK. Là, ce qui m'intéresse, d'abord, ce sont les innovations. Est-ce qu'on voit, je dirais, plus de modèles de véhicules électriques, plus de modèles avec des voitures, donc, qui ont plus d'autonomie?
Oui, ben là, en fait, Montréal, cette année, parce que, Paul, le Québec, là, on est probablement les plus conscientisés en termes de voitures électriques au Canada et probablement en Amérique du Nord. Il y a une section du salon qui s'appelle le générateur. On va avoir 42 modèles électriques qui vont être là, mais en plus de ça, on va avoir des fournisseurs, des gens qui travaillent là-dedans, qui peuvent aller installer une borne chez vous, fournisseurs de services, vendeurs de produits qui sont reliés à la voiture électrique. Donc, le salon a une belle initiative cette année. Là, ceux qui sont intéressés par la chose électrique vont pouvoir aller s'installer là puis voir vraiment tout ce qui est à leur disponibilité.
Est-ce que tu vois des changements rapides dans ce créneau de l'industrie automobile?
On est en plein dedans, là. J'étais à Détroit cette semaine, j'ai rencontré des gens de Mitsubishi, de Ford, de Nissan et d'Infiniti, et tout le monde nous dit que 2021, c'est vraiment un point marqué en rouge dans le calendrier des constructeurs automobiles, parce qu'il va se passer deux choses. Les lois sur l'environnement, tant aux États-Unis, au Canada et en Europe, vont changer, vont être plus sévères. On va être obligé de diminuer les émanations polluantes des véhicules et d'améliorer la cote de consommation. Donc ça va passer par l'électrification. Il y a beaucoup qui va être investi pour 2021. Donc, dans les deux prochaines années, là, on va voir beaucoup de nouveaux modèles hybrides branchables et électriques arriver sur le marché. Puis ça, c'est le consensus à travers toute l'industrie automobile.
Bon, on sait que les camions légers, là, les fameux pick-up, sont évidemment très, très populaires. C'est parmi les meilleurs vendeurs. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là ou si on est dans la continuité?
Voilà. Non, il y a une évolution qui va se faire. On va en arriver. Ford a déjà annoncé qu'il va y avoir un F-150 hybride. On travaille depuis déjà quelques années sur des camions électriques. Bon, évidemment, tu comprendras qu'avec la grosseur et la vocation du véhicule, ça va prendre de la batterie au pouce carré pour en venir à bout. Mais on travaille sur ces véhicules-là déjà depuis quelques années. On prévoit un petit peu plus tard, par exemple. On parle plus de 2023 probablement pour ces véhicules-là, mais des véhicules hybrides, on parle déjà de l'année prochaine ou 2021.
OK, en terminant, en fait, j'ai deux sujets en terminant. Je recevais un des VP de Mitsubishi, enfin, cette semaine.
Oui, M. Kobe, Vincent oui. Kobe.
Et là, on parlait de un peu, avec une vision futuriste, des véhicules sans chauffeur, oui. Des véhicules donc autonomes. Est-ce que tu sens que ça, on s'en va vers ça?
Ben, pas à court terme. Puis il faut faire une distinction, là. Il y a les véhicules autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont faire une partie du travail eux-mêmes, mais il y aura toujours un conducteur qui tient le volant derrière. Ça, c'est une catégorie qu'on commence à voir. La voiture sans chauffeur, là, on est ailleurs. Là, c'est une autonomie complète. Et là, il y a la personne, ou il y a personne dans l'auto, ou la personne est assise en arrière, elle lit son journal en allant au travail. Mais là, on élimine le chauffeur de l'équation. Ça, d'après moi, là, avant 15 ans, on verra rien de tout ça. Parce que là, quand on enlève le chauffeur de l'équation, il faut changer la réglementation, parler aux compagnies d'assurance en cas d'accident qui va être tenu responsable, changer les lois de la route, s'assurer que les voitures qui sont sur la route sans chauffeur communiquent entre eux pour pas qu'il y ait d'accident. Ça implique une quantité industrielle d'informations et de changements qu'on n'a pas en ce moment, et ça va être extrêmement long.
OK. Dernière question. Il y a un chercheur qui profite du salon pour mettre le doigt sur les accidents avec blessés graves ou décès causés par la fatigue. On parle souvent d'alcool, de texto, mais la fatigue est un facteur majeur.
C'est un facteur majeur. Moi, ce qu'on a présenté au salon, je l'avais essayé, moi, chez Ford. Et ça donne une bonne idée. Puis évidemment, c'est difficile de tester la fatigue. Un policier peut pas vous arrêter puis dire, monsieur ou madame, vous êtes fatigué, là. Sauf que il y a des indices. Moi, ça m'est arrivé. Heureusement, j'ai pas eu d'accident. Puis moi, curieusement, c'est pas le soir. Moi, c'est après le lunch que je suis le plus vulnérable au volant. Donc, si on sait déjà ça, faut faire attention. Puis la deuxième chose, si vous faites mettons un 20 secondes de route, là, puis dans les 20 dernières secondes, vous vous rappelez pas ce qui s'est passé sur la route, là. Ça, c'est un bon indice, là. Ça veut dire arrêtez-vous, prenez un petit somme 15 minutes, allez prendre une marche, aérez-vous, là. Mais avant de complètement perdre le contact, là, il y a des indices. Essayez d'être vigilant à ça, puis c'est probablement une bonne façon d'éviter de tomber de fatigue au volant.
Vous allez pouvoir voir ça en fin de semaine au salon. Merci beaucoup, Benoît.
Merci, Paul.
Au revoir. Bonne journée, Benoît Charrette. Et je rappelle que Mathieu Beaumont et son équipe seront en direct du Salon de l'Auto demain.